bienvenue sur Vocation Entrepreneur, le podcast dédié à la psychologie des femmes entrepreneurs. Je suis Ayette, votre hôte, et j'aide les femmes à comprendre les mécanismes de leur psychologie quand elles décident de lancer un business ou lorsqu'elles sont déjà entrepreneurs. Je vous aide à prendre conscience des schémas mentaux dans lesquels vous êtes, à dépasser ces blocages et à passer à l'action maintenant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu grandeur nature. Alors, vous êtes prête à jouer? C'est le moment de vous abonner à ma chaîne podcast pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, vous êtes mon invitée. Vous souhaitez un thé ou un café? Installez-vous confortablement pour enfin découvrir les secrets de votre mental. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Khadija de Reprends-toi en main sur Instagram. La voici.
Coucou Ayette, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier pour tes podcasts qui sont vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Alors j'aurais une question à te poser. Comment t'es venue cette vocation d'être coach mental pour les entrepreneurs?
Déjà, je te remercie Khadija pour ta question qui va me permettre de m'expliquer un peu plus sur le pourquoi de mon podcast Vocation Entrepreneur. Alors c'est vrai que j'ai une appétence pour le mental, la psychologie, mais je précise que je ne suis pas coach mental. Pour moi, être coach, c'est une sacrée responsabilité, surtout quand ça touche à la psychologie. Et même si effectivement je prends la responsabilité de vous donner des conseils, ce sont des conseils qui touchent des généralités dans l'entrepreneuriat. Et comme je n'ai pas encore rencontré de psychologue de l'entrepreneur, je me suis dit que ce podcast avait toute sa place. Ce que je partage avec vous, c'est ce que je partage dans mon quotidien avec mon entourage. Et mon objectif avec ce podcast, c'est d'abord d'avancer moi-même. Et oui, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais la première qui travaille, c'est moi. En lisant tous ces livres et toutes ces ressources, j'avance dans le chemin de l'entrepreneuriat. Et comme l'une de mes autres passions, c'est l'enseignement, je prends un plaisir fou à vous transmettre ce que j'ai découvert. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Khadija, si vous aussi vous souhaitez me poser une question par écrit ou une question audio, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail hello@vocationentrepreneur.com ou à m'envoyer un audio sur mon compte Insta mentalpreneur. Allez, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode solo de Vocation Entrepreneur, la seconde partie de l'épisode sur la psychologie du vendeur, l'épisode 8, dans lequel je vous avais présenté les 5 premières lois qu'il faut absolument connaître en psychologie de la vente. J'espère que vous avez pu y réfléchir et que vous avez commencé à identifier comment se manifestent ces différentes lois dans votre vie quotidienne. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous conseille vivement de stopper l'épisode actuel et d'aller écouter l'épisode numéro 8 pour bien comprendre la démarche. Comme promis, aujourd'hui, je vous présente les 5 dernières lois de la psychologie de la vente, des clés qui touchent toujours autant vos schémas mentaux. Je vous rappelle que je me suis inspirée du livre « Le vendeur psychologue ». C'est le week-end et vous avez décidé de faire un petit tour dans votre centre commercial préféré pour vous aérer l'esprit. Dès que vous mettez les pieds dans le magasin, ce dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est d'avoir été intégré dans un parcours client. Il faut savoir que rien n'est laissé au hasard dans les implantations des produits et les parcours que vous suivez lorsque vous êtes accueilli. L'objectif est de maximiser votre expérience client, de vous faire vivre des sensations agréables pour vous donner envie de revenir. J'irai même jusqu'à dire sans même savoir pourquoi. Vous êtes prête à explorer la suite des secrets psychologiques de la vente? C'est parti! Vous avez 2 enfants que vous chérissez plus que tout. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, c'est leur réussite, et notamment leur réussite sociale. Vos enfants font leur première expérience sociale à l'école, et cette situation a le don de vous angoisser. La scolarité de vos enfants, c'est un peu la vôtre. Vous revivez à travers vos enfants vos années primaires, collège et lycée. Que vous ayez été ou non une élève modèle, vous pouvez difficilement vous soustraire au jugement de l'école. Et si vous pratiquez l'école à la maison, mon expérience m'a montré que les habitudes mentales vous rendent la vie tout aussi dure. Il n'est pas rare de vouloir faire l'école à la maison pour se soustraire à la pression des profs et du système, mais que vous endossiez vous-même le rôle de ce prof tyrannique qui juge à travers ses notes ou son comportement. C'est d'autant plus compliqué que vous savez qu'à un moment ou un autre, vos enfants devront affronter la réalité de la société, quel que soit le parcours scolaire traversé. Si l'un de vos enfants répond favorablement à vos critères de réussite, bon comportement, bonne note, professeur content, vous développez une certaine sérénité à son égard et il sent votre confiance en lui. Il réussit donc pleinement tous les challenges et le fait que vous soyez satisfait de lui alimente son circuit de la récompense et de l'action. À côté de ça, vous avez un autre enfant qui vous donne pas mal de fil à retordre. Il n'est pas intéressé par ce qu'il étudie, se fiche royalement des remarques qu'on peut lui faire et vous avez du mal à trouver un canal de communication efficace avec lui. À chaque mauvaise note, votre confiance en lui baisse et vous imaginez le pire pour son avenir. Il vous reproche de donner beaucoup plus d'attention à son frère qu'à lui et vous lui répliquez que s'il avait besoin d'aide, il n'avait qu'à demander. Un jour, il rencontre un professeur qui croit en son potentiel caché et qui lui répète en permanence que c'est un surdoué qui s'ignore. Son professeur est persuadé qu'il deviendra un grand scientifique. Votre enfant s'accroche à cette prophétie et déploie une énergie considérable pour être en conformité avec cette belle image de lui-même. C'est la loi numéro 6, la puissance de la visualisation portée par une confiance en soi. Lorsque vous êtes persuadé de la valeur de votre projet, que vous avez déjà eu des signes que ce que vous proposez intéresse vraiment, encore mieux, vous avez des fans, accrochez-vous à cette idée et imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous aurez vendu votre produit. Vraiment, mettez-vous dans la peau de ce vendeur, celui qui croit en ses produits, qui est respecté pour ses mêmes produits et qui ne fait plus de la vente, mais un échange de valeur. Dans l'exemple des enfants, vous avez pu voir à quel point le fait de visualiser l'avenir de vos enfants est déterminant dans les actions que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui. Si vous êtes angoissé par l'avenir de vos enfants, cette angoisse va se traduire par une pression constante sur ce qui représente la réussite sociale de vos enfants. Généralement, c'est l'école. En business, cette visualisation, c'est le principe de la psychologie cybernétique. En gros, vous donnez un ordre à votre cerveau, la réussite, et vous le laissez vous guider à travers votre intuition vers les actions les plus productives. Visualiser l'état émotionnel dans lequel vous voulez être dans quelques années est primordial pour calibrer votre cerveau vers cet objectif et vous donner la confiance en vous d'y parvenir. Votre client sentira cette confiance et sera plus facilement convaincu par vos arguments commerciaux. La confiance en soi est contagieuse et diffuse une sécurité émotionnelle dont tout le monde raffole. Vous allumez votre télé pour regarder votre émission préférée et vous êtes agacé par la longueur des publicités. Mais il y en a une qui a attiré votre attention, c'est ce fameux produit qui vous promet de perdre 12 kilos en 4 mois tout en livrant les repas prêts à la maison. Le temps de quelques secondes, vous vous dites « c'est encore une arnaque, j'ai déjà essayé tous les régimes qui existent et je reprends toujours mon poids perdu, voire plus ». C'est le mois de février et vous êtes invité cet été à passer une semaine dans la villa privée de votre ami avec piscine et jacuzzi. Vous êtes soudainement prise de panique à l'idée de vous mettre en maillot de bain devant vos amis et là vous vous dites « et si cette pub était un signe ?» D'accord, ça n'a jamais marché, mais pourquoi ça ne marcherait pas cette fois-ci ? Vous dégainez votre carte bancaire et vous passez la commande pour recevoir les repas tout prêts des 6 prochains mois. La boucle est bouclée, c'est la loi numéro 7. Celle de la vente déclenchée par une motivation, négative ou positive, et qui l'emporte toujours sur une décision rationnelle. Ici, ce qui pousse la décision d'achat, ce sont des motivations psychologiques et non pas, comme on pourrait le croire, le fait de peser le pour et le contre rationnellement. Vous connaissez la pyramide de Maslow ? C'est cette pyramide qui hiérarchise les besoins de l'être humain, des besoins les plus fondamentaux, physiologiques, sécurité, aux besoins qui touchent à l'épanouissement, donc par exemple le besoin d'estime ou le besoin de s'accomplir. Vous devez distinguer les motivateurs négatifs qui sont liés à la survie, comme le fait de manger, du besoin d'habiter dans un lieu sécurisé, des motivateurs positifs qui développent une satisfaction personnelle plus longue. Un exemple de motivateur négatif est le fait d'avoir faim. Vous avez faim, donc vous mangez. Et la motivation disparaît avec le fait de manger. C'est une motivation qui est éphémère. Un exemple de motivateur positif, c'est le fait de vous promettre une vie sociale riche et épanouissante si vous arrivez à perdre ces 12 kilos qui vous gâchent la vie. Ce type de motivateur permet de garder l'acheteur en haleine plus longtemps, car il concerne les sentiments tels que l'appartenance à un groupe, la liberté, l'accomplissement de soi et l'estime de soi. En business, si vous présentez votre produit comme un facteur d'intégration sociale ou comme ce qui va permettre à l'acheteur de devenir libre ou beau, vous avez plus de chances de vendre à long terme. Vous pouvez tout à fait doubler vos arguments de vente par des motivateurs négatifs, comme le fait d'offrir une garantie satisfait ou remboursée, ou de promettre un service après-vente disponible pour gérer les problèmes. Le fait d'avoir conscience qu'il existe des motivateurs négatifs et positifs va vous permettre de calibrer votre message marketing pour donner envie d'acheter, tout en rassurant l'acheteur sur des éventuels points bloquants. Vous avez décidé de changer votre cuisine. En bonne comptable, vous décidez de faire établir plusieurs devis chez les cuisinistes de votre ville pour pouvoir comparer les prix. Le premier est réputé pour son bon rapport qualité-prix. Il met l'accent sur le fait que vous ne trouverez jamais moins cher ailleurs et que si vous trouvez, on vous rembourse deux fois la différence. Alors ce premier rendez-vous est satisfaisant, mais sans plus. C'est votre cuisine quoi, je veux dire, pas les yaourts que vous mangez le week-end. Deuxième magasin. Vous allez chez un cuisiniste dont vous savez pertinemment que les cuisines sont hors de prix. Mais bon, faire un devis n'engage à rien. En plus, le vendeur a l'air super sympa. Comme vous vous y attendiez, le devis est hors budget. Mais pendant les discussions, vous vous êtes senti un brin exceptionnel. Avec cette cuisine, vous sortez du lot. Fini le stand-in Ikea. Vous le méritez bien. Ça fait 20 ans que vous travaillez et que vous dépannez avec les meubles bas de gamme. Le problème, c'est le prix. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous payer cette cuisine cash. Le vendeur comprend votre situation et vous conseille d'aller chez les concurrents moins chers qui respecteront votre budget. Il ne vous harcèle pas. Du coup, vous tentez de trouver une solution et vous lui demandez s'il ne peut pas vous proposer un paiement en 10 fois. Vous avez de la chance, c'est exceptionnellement possible ce mois-ci. C'est la loi numéro 8, le processus de recul ou l'action-réaction. Si vous bombardez votre acheteur d'arguments pour l'orienter vers une vente et qu'il se sent manipulé, ou dans un processus de vente forcé, vous allez provoquer chez lui un recul, c'est-à-dire un réflexe d'autoprotection car il se sent en danger. Il sent que vous le dirigez vers le produit le plus cher. L'acheteur a besoin de sentir qu'il est libre de choisir ce qui est bon pour lui, enfin ce qu'il en pense. Dans notre exemple 2, le vendeur aurait très bien pu proposer le paiement en 10 fois tout de suite après les pourparlers, mais il a senti que vous aviez besoin de prendre vous-même l'initiative car vous baviez devant ce plan de cuisine. Il a utilisé ce qu'on appelle l'approche paradoxale en vous faisant clairement sentir que si vous n'avez pas les moyens d'acheter cette cuisine, vous pouvez partir. Sous-entendu, nous ne sommes pas prêts à brader nos produits pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ce sentiment de rejet vous a poussé à chercher une solution alternative, le paiement en 10 fois. Quand un acheteur est hésitant, il est bien d'utiliser cette technique du recul pour lui redonner la liberté de choix. J'ai remarqué que j'ai souvent été dans cette situation. Mon obsession d'être unique, de ne pas faire comme tout le monde, m'a souvent conduit à payer plus cher un produit rare pour ne pas le retrouver chez toutes les copines. On est d'accord les filles, il n'y a rien de pire que de retrouver chez tout le monde sa vaisselle. Ici, je ne vais pas imaginer une mise en situation, mais je vais vous présenter un projet qui a levé 13 millions de dollars en 3 minutes. C'est la fameuse publicité d'appel à contribution The Coolest. The Coolest, c'est une glacière futuriste qui promet des pique-niques super hype. Dans cette glacière électrique, vous avez un compartiment à glaçons, la possibilité de brancher un blender et une connexion Bluetooth intégrée. Vous pouvez chercher cette pub sur YouTube en tapant Coolest Glacière. Quand vous aurez vu cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce projet a levé autant d'argent. La vidéo mettait en scène tous les détails d'un pique-nique idéal. Ce qui est important ici, c'est le travail sur les sensations. Comme dans un film, vous y êtes à ce pique-nique tant rêvé. Vous aurez enfin le privilège de vous libérer de vos appareils domestiques branchés sur le 220 volts pour vivre une expérience en pleine nature en toute autonomie. Vos invités seront éblouis par votre glacière et feront des pieds et des mains pour avoir la même. Ici, le projet de crowdfunding proposait aux premiers investisseurs de recevoir le produit en exclusivité. Ils seraient alors les ambassadeurs de la marque et ceux qui auront le privilège d'avoir flairé l'objet du futur avant tout le monde. C'est la loi numéro 9, la loi qui donne priorité aux sensations. Dans cette loi, le message marketing ou le discours fait appel au maximum à vos sensations grâce à la visualisation dont on a parlé précédemment. L'objectif est de vous mettre dans une réalité virtuelle, de vous montrer les avantages d'un produit en impliquant tout votre être dans la mise en scène. Vous faites partie des protagonistes et cette projection émotionnelle permet de créer une proximité indisputable avec le produit. Le produit devient vôtre et vous souhaitez l'acquérir illico presto. C'est exactement ce procédé qui est utilisé dans les publicités de parfums haut de gamme, où c'est votre pouvoir de séduction qui est mis en avant avant le fait de sentir bon. On dit souvent qu'une belle image vaut mille mots, alors trouvez la bonne image ou la bonne expérience et vendez mieux. Vous vous baladez sur Pinterest et vous découvrez un nouveau produit qui a l'air extraordinaire. La vidéo fait envie, elle est très vendeuse. Mais devant votre enthousiasme, vous commencez à chercher des avis sur ce produit à travers d'autres sites web. Et là, grosse déception, tout le monde crie à l'arnaque. Vous refermez aussitôt Pinterest. Vous avez envie de tenter le canyoning, mais à l'âge de 40 ans, vous n'avez jamais pratiqué de sport nautique. Et ça vous fait peur. La semaine suivante, vous apprenez que Nora, la voisine qui a 45 ans, a testé le canyoning et s'en sort plutôt pas mal. Vous décrochez alors votre téléphone pour réserver une séance d'essai. Attends, il n'y a pas de raison qu'elle y arrive et pas moi. C'est la loi numéro 10, la fameuse loi de la preuve sociale. C'est tout à fait normal de chercher à se situer par rapport à ses pairs. Nous sommes des êtres humains et une grande partie de notre construction psychique se fait dans la confrontation avec les autres. Donc faites bien attention à vos fréquentations. Nous avons besoin de savoir si ça marche ailleurs pour faire confiance et nous décider. C'est d'ailleurs là-dessus que les entrepreneurs débutants flanchent. Ils arrêtent souvent avant d'avoir pu créer une preuve sociale. Et comme la preuve sociale vient avec le temps et la confiance, c'est vraiment dommage de s'arrêter avant de faire réellement ses preuves. Je pense que la réussite entrepreneuriale dépend d'un nombre influent de gens convaincus par votre travail. Si vous arrivez à convaincre un premier noyau de personnes que votre travail a de la valeur, vous créez les conditions parfaites pour l'émergence de la preuve sociale. Il faut un peu de patience, ça finira par payer. Il suffit qu'une personne ayant une autorité suffisante décide de vous recommander pour exploser dans votre domaine. Je ne compte pas le nombre d'entrepreneurs dont les business ont explosé après une apparition dans une chaîne influente ou dans un podcast très célèbre. Le succès n'a donc pas grand-chose à voir avec votre quantité de travail. C'est surtout une question d'opportunité. Et si vous faites un travail de qualité, eh ben ça ira beaucoup plus vite. Vendre avec la preuve sociale permet d'appuyer votre autorité et de convaincre les hésitants. Ce qui est important dans le témoignage de la preuve sociale, c'est de mettre l'accent sur la transformation qu'a suscité un tel produit, et non pas que le produit soit bon ou mauvais. Quand vous demandez des avis à vos clients, demandez-leur de décrire en quoi ce produit a transformé leur vie, et non de dire que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Plus personne n'y croit, et ça peut même amener de la méfiance sur la partialité de l'avis. Voilà pour les 5 dernières lois de la psychologie de la vente. N'oubliez pas que votre client achète un produit qui satisfait et ses besoins matériels, mais surtout ses besoins psychologiques. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le transmettre au plus grand nombre pour augmenter la visibilité de ce podcast. Si vous avez accès à Apple Podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles, c'est ce qui valorisera le plus mon travail. Votre bulle introspective est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vocation Entrepreneur. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de votre mental.